On est dimanche, il est 20h, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 FM et en streaming. Et tout de suite, c'est Museum Side, votre émission de critique d'exposition. En avant, pour un tour du côté des musées.
On commence avec le mot du comte de Lautréamont. Bon, comme la rencontre fortuite d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection.
Museum Side.
Vous avez tenté de faire quelque chose qui n'est en aucune façon un palais, en aucune façon un lieu de décor, et disons-le tout de suite, en aucune façon un musée.
Museum Side, c'est l'émission de critique d'art de Radio Campus Paris.
Vassili Kandinsky est exposé au troisième étage à côté de Malevitch, comme il se doit.
Ceci n'est pas un musée.
Ah, donc si je tombe Malevitch, pour Kandinsky, je brûle.
On parlera d'exposition, d'art.
Ce qui donne un art à une société, dit André Gide, c'est le besoin qu'elle en a, et non une compréhension plus ou moins grande.
On va se balader dans Paris, de musée en musée, toujours en compagnie d'un invité. Et ce soir, pour notre 8e numéro, nous allons fêter deux anniversaires. Le premier est celui d'un génie, un géant de la sculpture, Auguste Rodin. Cette année, de nombreuses manifestations célèbrent le centenaire de sa mort. Le Grand Palais lui consacre une grande exposition, tandis que le musée Rodin a choisi de donner carte blanche à un artiste contemporain, Anselm Kiefer. Véronique Mathieu-Sy, responsable scientifique du Fonds historique du musée et commissaire de cette exposition, a accepté de venir nous raconter la genèse de ce projet. En deuxième partie, c'est le Centre Pompidou qui souffle cette année ses 40 bougies. Pour réaffirmer sa mission de décentralisation de la culture, des expositions spéciales ont été conçues partout en France pour présenter les œuvres iconiques de Beaubourg. Nous avons sélectionné le parcours 77 qui revient sur la date de création du centre à travers trois expositions, au château de Rantilly à Bussy-Saint-Martin, à la ferme du Buisson de Noisiel et au centre photographique d'Île-de-France de Pontault-Combault. Nous évoquerons également l'exposition à pied d'œuvre à la Monnaie de Paris. Mais avant, petit tour d'horizon de nos chroniques ce soir. Agathe,
bonsoir.
Quelle collection nous emmènes-tu explorer ?
Celle du Pompidosaure.
Oh oh. Charlotte, quel catalogue as-tu ausculté ?
Alors, je vous parlerai du Ciao Italia, un siècle d'immigration et de culture italienne en France, donc une exposition qui est en ce moment au Palais de la Porte Dorée à Paris.
Et nous retrouverons Marion en deuxième partie d'émission, mais tout de suite, c'est l'heure de la chronique photo de Marie-Hélène.
Je comprends pas ce que je vois.
Ce mois-ci, je vous emmène au Jeu de Paume pour découvrir l'œuvre du photographe et cinéaste Élie Lothart. La première partie, consacrée à ses débuts, est caractérisée par une série d'images modernistes aux cadrages radicaux. Il décortique le paysage urbain et industriel. Bateaux, trains et rails deviennent des motifs abstraits, esthétisés. Ce sont des photos magnifiques où l'artiste travaille avec les ombres et le côté géométrique des objets. Un exemple typique de la nouvelle vision européenne qui se développe en photographie au tournant des années 1920. L'exposition aborde ensuite le rapport d'Élie Lothart au surréalisme à travers des collages et des photographies qui offrent un regard onirique sur la ville. Puis le parcours se termine sur l'engagement documentaire de l'artiste dans une troisième partie saisissante qui aborde sa sensibilité sociale et politique. Une plongée dans la dureté du quotidien de l'entre-deux-guerres avec des images très réalistes, parfois très crues, notamment avec sa série sur les abattoirs de 1929, jusqu'au film Aubervilliers qu'il a réalisé en 1945 sur les bidonvilles de la banlieue nord de Paris. Un documentaire poétique qui dépeint la réalité accablante de l'après-guerre, entre la pauvreté, les taudis et la vie des enfants travailleurs. C'est donc une rétrospective qui permet de découvrir toutes les facettes d'Élie Lothart à travers son œuvre ou ses différentes rencontres artistiques, et c'est à voir jusqu'au 28 mai.
Je comprends pas ce que je vois.
On l'a découvert pour certains, ou redécouvert lors de sa très belle rétrospective l'année dernière au Centre Pompidou, la première de cette ampleur depuis 30 ans. Anselm Kiefer, né en 1945 à Donaueschingen, fait partie de cette génération d'artistes allemands comme Georg Baselitz, Sigmar Polke, Gerhard Richter, imprégnés de la Seconde Guerre mondiale, des ruines, conséquences de cette guerre et de la nécessité d'une reconstruction. Au tout début de sa carrière, Anselm Kiefer fait d'ailleurs une série de photos dans lesquelles il pose avec le salut nazi un peu partout dans le monde. Nécessité de la mémoire, étude des religions, la Bible, la Kabbale, certains thèmes sont récurrents chez l'artiste, et de ce point de vue-là, on n'est pas dépaysé dans sa nouvelle carte blanche. Dans le cadre du centenaire de la mort d'Auguste Rodin, Anselm Kiefer a donc eu le champ libre, au musée Rodin, pour rendre hommage au maître. Qu'est-ce qui rapproche ces deux plasticiens à deux siècles d'écart? Peut-être le goût du travail de la matière. Pour Kiefer, elle est dense sur le tableau. Pour Rodin, elle sera modelée, pétrie encore et encore sur sa sculpture. Ce soir, pour en discuter avec nous, nous avons le plaisir d'avoir Véronique Mathiussi, responsable scientifique du Fonds historique du musée Rodin et commissaire de cette carte blanche. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Anselm Kiefer est rentré dans l'œuvre de Rodin par son ouvrage « Les cathédrales de France » et il a commencé à travailler dessus il y a 4 ans, en 2013. Qu'est-ce que représente ce livre écrit et conçu par Rodin dans son œuvre ?
Alors, c'est un livre qui est très important pour Rodin. En fait, c'est un livre que Rodin publie 3 ans avant sa mort, en 1914, et qui est une sorte de testament artistique. C'est un livre qui a été beaucoup réédité, traduit même en anglais, en allemand, etc., mais qui finalement est très peu consulté parce que difficilement abordable. En fait, on pense y trouver un discours un peu scientifique sur les cathédrales de France, et ça n'est pas que ça, ça n'est pas ça en réalité. C'est surtout un ouvrage où Rodin porte une sorte de regard un peu nostalgique sur sa vie, sur son passé, mais qui s'inscrit surtout comme une sorte de témoignage artistique qui résume sa pensée et qui, en fait, est très important, qui accompagne en fait toute sa réflexion et tout son parcours artistique, autant sa production sculptée que sa production graphique. Alors, il va commencer par réaliser quantité de promenades, d'errances, de vagabondages dans la campagne de la France, pour à la recherche justement de ces architectures médiévales, à la recherche de ces cathédrales, mais pas seulement. Parfois, ça peut être des architectures de la Renaissance. Et ça va nourrir comme ça tout son travail. C'est une source pour lui de renouvellement. C'est une source d'inspiration très importante.
Agathe.
Alors, dans le feuillet de médiation que le visiteur peut prendre à l'entrée de l'exposition, il est indiqué que vous avez invité l'artiste, donc Anselm Kiefer, en 2013, à travailler à partir de cet ouvrage. Est-ce que c'est vous qui avez orienté ce choix ou est-ce que comment l'artiste est venu?
La carte blanche est née vraiment autour de ce livre parce qu'au départ, c'était d'abord un projet de réédition de l'ouvrage, revisité par ce regard d'un artiste contemporain qu'est Anselm Kiefer. Et puis, très vite, le projet a évolué et s'est imposé à nous, eh bien, par la production même d'Anselm Kiefer, parce qu'il est très productif, eh bien, l'idée d'une exposition s'imposait à nous de façon inévitable, en fait. Et avec, à l'horizon de ce centenaire de la disparition de Rodin, il nous a semblé très intéressant, justement, de confronter, enfin, en tout cas, d'explorer, de regarder Rodin à l'aune un peu d'un autre géant de notre époque, Anselm Kiefer, qui est à la fois peintre, sculpteur, bâtisseur, photographe et plein d'autres choses, parce qu'en fait, très vite, on s'aperçoit que les deux artistes partagent énormément et se rencontrent dans beaucoup de domaines.
C'est vrai que justement, on pense tout de suite à sa série sur les cathédrales et toutes les œuvres qu'il a faites autour du plomb qu'il a récupéré de la cathédrale de Cologne, oui, à partir de 1975 et qui va après être réutilisé dans toutes ses œuvres presque dans les années 80.
Et déjà réutilisé dans les deux tableaux de l'exposition, il me semble.
Trois tableaux.
Déjà,
voilà, alors oui, tableaux. Alors en fait, c'est progressif et tout ça, ça s'inscrit dans un flux, dans un parcours créatif chez Anselm Kiefer, parce qu'en fait, ce sont deux artistes héros et Kiefer, qui ont ce goût de la variation, de la série, de la récupération, de l'accumulation. Et alors chez Rodin, ça passe notamment par le morceau, le fragment et l'assemblage. Et chez Kiefer, ça passe par cette fascination qu'il a de la ruine et du débris. Et tous deux vont décliner et recycler à l'infini. Donc autour de cette commande initiale des cathédrales de France, Kiefer a commencé par partir sur la lecture, bien sûr, de ce livre. Dans ce livre des cathédrales de Rodin, eh bien, il retient deux idées phares. La première, c'est cette dimension très organique que Rodin donne aux cathédrales, c'est-à-dire en fait qu'il a une définition très sublimée de la nature telle que nous on l'aperçoit, mais dans laquelle il intègre aussi la femme et l'architecture. Et la deuxième idée que Anselm Kiefer va retenir aussi, c'est l'idée de cette façon que Rodin a de s'insurger contre le geste des restaurateurs qui, sous prétexte de sauvegarder le patrimoine, moines le dénaturent par leur intervention. Donc ça, ça l'intéresse et il va commencer à réaliser toute une série de livres.
Est-ce qu'il y a aussi, dans les propos de Kiefer, une trame historique, c'est-à-dire qu'on a en perspective, enfin, on a en, dans l'idée, quand on visite l'exposition, on garde en idée donc, à la fois cette, ce travail autour de la récupération des plombs de la cathédrale de Cologne, qui était bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, et le fait que le livre de Rodin ouvre une perspective assez noire pour les cathédrales de France qui vont être aussi bombardées pendant la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'il le lit ?
Alors, lorsqu'il arrive, ce qui est très drôle, d'abord, il faut savoir qu'Anselm Kiefer a commencé par réaliser ses tours de façon très antérieure, et vraiment il y a très longtemps dans sa carrière. Il a commencé d'abord par les bâtir. Ce sont ces containers qu'il empile les uns sur les autres, qu'il a commencé par bâtir, qu'il photographie ensuite, et pour la première fois dans cette exposition, effectivement, il les peint et il a, avec une science de la matérialité, de la substance, parce que Kiefer ne parle pas de couches picturales, mais plutôt de substance. Les couches sont labourées, les empattements sont pétris, et dessus, il ajoute effectivement cette émanation de plomb. Et c'est la première fois que Kiefer va coucher sur la toile, couler à même la peinture, le plomb, qui est un matériau de prédilection chez lui, qu'il travaille depuis les années 70. Et c'est vrai qu'en 1985, il avait eu cette opportunité de racheter une partie de la cathédrale, du toit de la cathédrale de Cologne, mais qu'il a entièrement utilisé, dans notamment la réalisation d'une œuvre qui s'appelle 20 ans de solitude, et dans des quantités d'ouvrages en plomb et d'émanations aussi. Là, aujourd'hui, ce n'est plus ce plomb issu de la cathédrale de Cologne, mais on peut comprendre effectivement que ce plomb, à la fois, l'intéresse par toutes ses capacités, par tout ce qu'il peut en tirer, mais aussi par cette dimension symbolique du toit de la cathédrale. Alors, aujourd'hui, Anselm Kiefer, à travers les œuvres qu'il réalise pour l'exposition au musée Rodin, ce sont toutes des œuvres inédites, et c'est la première fois qu'il va coucher donc, ce plomb sur ces toiles, qui s'imprègne de la couche picturale et emporte avec elle les pigments lorsque notamment il détache de la toile certains fragments, certaines parties. Pour lui, pour Anselm Kiefer, c'est une sorte d'évocation aussi, une allusion en fait en quelque sorte à la Saint-Barthélemy qui présente sa peau en signe de son martyre.
D'accord, c'est vrai que c'est très beau, on dirait du mercure, quelque chose de très vivant.
Oui, c'est très beau, c'est très puissant, et c'est surtout, on voit à quel point il s'inscrit dans cette relation très proche, en fait, dans ce fonctionnement, cette façon d'appréhender le métier très proche de Rodin, qui fait que ce sujet qui lui est cher, la tour, eh bien, il le revisite dans un contexte nouveau, il le requalifie, il le sublime, et il en fait des tours cathédrales qu'il revisite complètement dans un contexte nouveau, très symbolique et qui représente cette fois un peu heurté, bien sûr blessé. Ce sont des ruines, des tours qui ont subi, bien sûr, mais qui sont quand même triomphantes et annonciatrices toujours d'une renaissance. Ça, c'est le message d'Anselm Kiefer.
Mais alors, pourquoi il a choisi du coup des toiles de mettre ses tours en avant sur des toiles dans un centenaire d'un sculpteur, et lui, il a aussi une pratique.
Alors d'abord, c'est tout un itinéraire. Anselm Kiefer commence cette carte blanche d'abord très, on va dire de façon un peu littérale par rapport à sa lecture, par la production d'une série de livres. On sait que le livre chez lui, c'est très important. On avait pu voir l'exposition magnifique à la BN, et donc c'est une sorte de matrice pour lui. Il les réalise en papier, en plomb, là en plâtre. Puis là, donc, il part de cette lecture et il va décliner un peu ses cathédrales de France à travers ce livre. Puis il va avoir très vite, il va éprouver très vite le besoin de partir, de s'investir, de s'immerger dans l'univers rodinien. Et ça va passer par des visites d'abord à Meudon, dans les réserves du musée. Et là, il va être subjugué, assez fasciné par la quantité de fragments, de figures en plâtre que nous conservons. Kiefer va sélectionner comme ça quelques formes, quelques sujets de prédilection qui vont l'inspirer. Et puis, il y a aussi autre chose qui vont l'inspirer à côté de ça. C'est aussi la quantité de moules, le moule qui sert au tirage des épreuves et que Kiefer retient, notamment d'abord par leur nombre, par leur dimension, par leur état aussi, et il va s'en procurer de semblables pour pouvoir intégrer ce vocabulaire rodinien dans sa production. Donc là, c'est la deuxième étape, ça passe par des réalisations de vitrines, et en troisième lieu, il arrive à ses peintures. Là, on est à l'hiver 2016, où d'un seul coup, après tout ce vagabondage et cette errance dans l'univers rodinien, eh bien en fait, il est arrivé à revoir ses tours qu'il avait réalisées dans un contexte totalement différent, et il m'a appelé un jour en disant « mais il faut venir, on était pendant les vacances de Noël 2016, et il m'a dit « il faut que tu vois un peu ce que j'ai fait, les dernières choses ». Et là, donc j'arrive et il me dit « mais tu sais, je me suis réveillée un matin et d'un seul coup, je me suis dit « mais ma cathédrale, c'est ça, c'est les tours, c'est ça ma cathédrale à moi ». Et donc il a repensé cette espèce de sujet comme une récurrence dans son parcours artistique, tout comme Rodin va décliner certaines figures parce que ça fait partie de son vocabulaire et de son monde, pour les réinventer, leur donner toujours une vie nouvelle.
Agathe.
Je voulais vous demander, parce qu'il y a une sorte d'ambiguïté quand on arrive dans cette grande salle, la première salle, c'est qu'on trouve dans les vitrines à la fois des fragments du corps humain que l'on sait être de Rodin, mais on n'en est pas si sûr. De même que les moules qu'on voit, en fait, sont des moules qui pourraient être des moules à pièces anciens.
Oui, tout à fait.
Mais il y a un suspense quand même qui est laissé, une certaine ambiguïté. Oui. Est-ce que c'est voulu ?
Ah, c'est totalement voulu. En fait, l'idée d'Anselm Kiefer et sa façon aussi de travailler, c'était de trouver une source d'inspiration à travers tout cet univers de Rodin dans lequel il s'immerge. Ça passe par la consultation à la fois de son corpus de dessin qu'il va venir consulter à maintes reprises, par ses réserves, ses visites aussi dans les réserves, comme je vous dis, de toutes les figures de plâtre et dans les moules. Et effectivement, Anselm Kiefer va sélectionner certaines œuvres, en commander une réplique, parce que nous ne pouvions évidemment pas lui livrer les originaux. Il va sélectionner des sujets, en commander des répliques dans des résines qui sont estampillées et tout à fait identifiées et qu'il va intégrer parce que son idée à lui, c'est de se confronter, en fait, si vous voulez, c'est de confronter ce vocabulaire rodinien aux reliques, aux vestiges de sa propre vie, dit-il. Et là, à partir de là, il dit « je guette l'étincelle ». Et donc, c'est vraiment une utilisation de ce mélange de deux univers. Et avec la réalisation de ces vitrines, on est franchement à la lisière de l'étrange. C'est un monde très poétique. Par exemple, lorsque Kiefer récupère le moule qu'il brise parfois, il ne s'intéresse pas tant au procédé de fabrication, mais plutôt à l'empreinte, à la matrice. Et puis surtout avec cette idée d'une vie passée et peut-être d'une autre à venir. Vous voyez, donc en fait, Kiefer nous invite comme ça à rentrer dans son propre univers, si vous voulez, et à intégrer son imaginaire et une vision très poétique, en fait.
Alors, dans la deuxième salle, il y a ensuite, qu'on verra après dans le cabinet d'art graphique, on verra les dessins érotiques de Rodin dans la collection permanente, mais lui, dans le début de sa carte blanche, Anselm Kiefer présente aussi donc, des dessins érotiques des femmes alanguies qui se font dans des cathédrales. Oui. Elles sont dessinées sur des ouvrages assez épais qui ressemblent à du marbre, mais c'est pas du marbre en
fait. Non, c'est du plâtre. Alors c'est d'abord des ouvrages d'une sorte de carton recouvert de lait de plâtre et donc qui sont des grands objets quand même, avec plusieurs pages, peut-être on va dire une quinzaine de pages qui s'ouvrent sur des grands formats et sur lesquels à chaque page Kiefer va dessiner, aquareller, peindre, etc. Et au départ, il mêle cette vision, cette espèce de mélange entre l'architecture et la figure féminine dans une logique très rodinienne, on va dire, mais avec toujours une ambiguïté entre une sorte de dévotion sacrée et de jouissance profane à la fois. Il va décliner comme ça les cathédrales de France à travers ses livres de plâtre, puis réaliser une deuxième série de livres encore, où cette fois l'architecture s'évapore, un peu disparaît au profit exclusif de la figure féminine. Et cette fois, ce sont des livres qui sont faits avec des effets marbrés pour rendre hommage au métier du sculpteur, à Rodin, parce que Rodin, c'est un artiste, même s'il ne taille pas lui-même le marbre, il est confronté à la matérialité de la matière, du marbre, de la pierre, même de la terre. Et pour rendre hommage à Rodin, donc, il fait réaliser ses livres avec des effets marbrés, d'où surgissent ses figures, parce qu'il partage avec Rodin, Kiefer, cette idée que la figure, enfin, le sujet et l'idée sont partie intégrante de la matière. Et eux, en quelque sorte, ne sont que des passeurs qui sont là pour faire émerger, pour faire exister le sujet, le révéler.
Agathe. On dirait aussi presque des pierres lithographiques, moi j'ai trouvé.
Oui, c'est vrai, complètement. Il y a cette idée, tout à fait.
On a le sentiment qu'il retire en fait de la production rodinienne à la fois un univers architectural et assez désolé avec toute cette retranscription des cathédrales et à l'inverse, quelque chose autour de la fécondité en fait très forte avec ses dessins de femmes érotiques.
Complètement. Et il y a aussi cette idée, il faut savoir que, vous savez, ce qui met Anselm Kiefer sur le chemin de la création, c'est d'abord l'histoire allemande en premier lieu, mais aussi sa propre histoire à lui. Et en fait, l'histoire, c'est à Kiefer ce que la figure humaine est à Rodin, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu la sève qui va le nourrir. Et chez Kiefer, tout son discours, tout son art tourne autour toujours de l'idée de, en quelque sorte, de la puissance de la réminiscence, en quelque sorte.
Mais c'est vrai que dans cette carte blanche, il y a deux aspects, comme tu l'as souligné, Agathe. Les premières salles avec les cathédrales et les dessins érotiques, ainsi que ses compositions en vitrine. Et le deuxième aspect, ce serait de montrer le processus créateur à l'œuvre dans l'atelier de Rodin, notamment avec la présentation de l'œuvre Absolution, jamais montrée jusque-là, donc dans les collections permanentes. Quelle est la genèse de cette œuvre et pourquoi Anselm Kiefer l'a choisie
Alors là, ce qui nous importait à nous, c'était pas du tout de faire une confrontation formelle, parce qu'en fait, si vous voulez, ces deux artistes ont deux univers bien singuliers, oui, bien différents, et on peut se dire à première vue que, à bien y regarder, on peut se dire bon bah, qu'est-ce qui les rapproche véritablement ? Ça peut même paraître surprenant. Et pourtant, on s'aperçoit qu'ils partagent énormément et surtout qu'ils se rapprochent surtout autour d'un processus créatif très semblable. Qui passe par ce goût de la recherche, de l'exploration, de l'expérimentation, par cette fascination qu'ils ont tous les deux pour l'accident, cette disponibilité qu'ils ont aussi pour le hasard, ce goût de la récupération, de l'accumulation. Et en fait, tous deux vont décliner, recycler à l'infini et partagent une même façon, si vous voulez, d'appréhender le métier. Ça passe aussi, ce mode opératoire, par des matériaux très variés, alors certes différents, mais malgré tout très variés, dont ils vont utiliser toutes les capacités. Chez Kiefer, ça va être le sable, la cendre, le végétal, le tissu, le plomb, bien sûr, etc. Des matériaux les plus modestes aux matériaux les plus nobles, comme le marbre, le bronze ou même les diamants qu'Anselm Kiefer utilise aussi dans ses toiles. Et ce qu'on a voulu montrer dans cet accrochage des œuvres de Rodin, c'est de sortir, si vous voulez, des œuvres très méconnues pour la plupart de Rodin, parfois présentées pour la première fois au public, mais qui montrent une même préoccupation, c'est-à-dire ce goût de profiter du hasard, de la vie de l'œuvre, de son parcours, de ses accidents de parcours aussi, que Rodin utilise dans le processus créatif, conserve, de cette volonté aussi de ne pas enlever la main de l'homme, de montrer les traces de colmatage, d'incision, d'inscription, etc. Donc c'est un parcours très semblable.
Agathe.
Moi, c'est une pièce qui m'a beaucoup intéressée parce qu'on voit aussi tout ce travail en cours en fait, que réalise Rodin. Mmh. Et c'est vrai qu'on a ce sentiment de pièce accidentée.
Ah, totalement.
Pour beaucoup.
Oui, totalement, et voulu. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez surprenant, c'est que à la fois tous les deux partagent une sorte, une esthétique à la fois rude et caressante, oui, mais toujours très poétique. Et on le voit bien dans Absolution.
C'est une adjonction, on a l'impression, de différents...
strates, c'est voilà, exactement. Complètement. Et c'est une façon aussi de renouveler, de porter un regard toujours nouveau et de se renouveler au sein de sa propre production. Et ça, c'est fascinant parce que 100 ans après sa mort, la présentation d'une œuvre comme Absolution est une sorte d'ovni, en quelque sorte.
Oui, complètement.
Elle n'a jamais été présentée du vivant de Rodin. C'est une œuvre qu'on expose pour la première fois, qui a donné lieu à une grosse campagne de restauration. Mais surtout, cette œuvre, eh bien, elle est fascinante pour plus d'un aspect, c'est-à-dire que d'abord, elle montre cette fascination que Rodin a à la fin de sa carrière de revisiter tout son corpus par le biais de l'agrandissement. Et il va utiliser donc trois figures réalisées antérieurement qu'il assemble cette fois. C'est le torse, un corps d'homme du Golin dans sa première version, donc représenté assis, à laquelle il assemble une figure de la martyre, donc de femme, et une autre figure qu'il normalement il présente de façon horizontale, mais là qu'il redresse à la verticale, qu'il appelle la terre, dans sa version agrandie, et pour donner lieu à cette absolution. C'est le baiser du pardon. C'est une œuvre à la fois dans une esthétique très dure, très violente, très rude, parce qu'on a toutes les traces de l'outil, on a toutes les traces du plâtre très brut, et toutes ces figures sont regroupées, protégées comme par un immense drap, ce qui n'est pas rien chez Rodin. C'est une œuvre sans précédent, parce que d'abord, on aurait pu se dire que Rodin, qui est le maître de la chair et de la nudité, c'était pas très attendu de le voir utiliser le tissu. Et pourtant, on s'aperçoit qu'il fut parmi les premiers quand même à travailler le tissu. Je pense que pour lui, ça doit être quelque chose, lui qui est habitué à la matérialité, à la pesanteur, à tous ces matériaux très contraignants. La fluidité ou la souplesse de le tissu l'intéresse, mais qu'il l'utilise toujours d'une façon assez anecdotique, on va dire en petite proportion. Avec absolution, là c'est sans précédent, c'est un immense drap qui recouvre ces figures, et on voit qu'en fait Rodin retient le tissu toujours dans deux cas, soit pour créer une surenchère de mouvement à la dynamique, et parfois aussi, et c'est le cas dans absolution, pour créer une sorte de huis clos, pour arrêter le temps, créer une sorte d'écrin en quelque sorte à la scène qui se joue devant nous, qui est un moment éminemment tendre, et qui, pour créer une sorte de supplément d'âme, j'ai envie de dire.
Peut-être pour finir, oui. On pourrait parler donc de la fin de l'exposition qui se termine dans le cabinet d'art graphique,
oui.
Avec les dessins érotiques de Rodin. Comment vous l'avez envisagé ?
Alors là, c'était pour revenir un peu sur le point de départ et de dire ce qu'ont été...
La boucle est bouclée.
La boucle est bouclée et de dire ce qu'ont été ces cathédrales de France qui vont irriguer toute la production de Rodin tout au long de sa vie, de façon parfois pas très perceptible pour le public, parce que le corpus d'abord de tous ces dessins d'architecture, on ne le connaît pas vraiment très bien. Et puis on voit que Rodin, bien très tôt, a quand même travaillé beaucoup sur cette silhouette féminine qui l'architecture, pour jusqu'à en faire un élément ornemental même, et puis qu'il va décliner pour retenir finalement que la dimension symbolique avec des dessins comme le son de la cloche, etc. Donc on voit que les cathédrales influencent, irriguent un peu sa production autant graphique que sculptée, jusqu'au Balzac même, oui. Puisque le Balzac, oui. De Rodin, on a vu... Voilà, c'est quand même c'est une sorte de scoop, parce qu'on avait beaucoup travaillé en 98 sur la réalisation du Balzac, et nous avait échappé à ce moment-là et bien ces dessins qu'on connaissait pourtant, mais où on voit un Balzac campé avec annoté quatre gottes, cathédrale gothique ou quatre gothiques, et toujours à proximité d'une architecture, et on voyait bien que, si vous voulez, sa cathédrale gothique légendait plutôt la figure du Balzac nu. Et à bien y regarder, et bien on s'est aperçu en lisant justement ces cathédrales de France, que Rodin envisage son Balzac justement comme une cathédrale. C'était cette espèce de monument vers là, l'endroit où tous les regards convergent, un peu comme la cathédrale s'impose dans la ville, qui est un repère d'espace, de temps, etc., qui est incontournable, qui est un témoignage de sa noblesse, de sa puissance aussi. Et Rodin écrit justement dans son livre, dans le chapitre consacré à Chartres, il dit « Ne me suis-je pas approché de vous, grand maître de l'architecture médiévale, par ma figure de Balzac qui, quoi qu'on puisse en dire, est quand même une leçon pour la sculpture de plein air. »
La carte blanche en scène Kiefer est donc à voir jusqu'au 22 octobre 2017 au musée Rodin, et c'est également l'occasion de redécouvrir le parcours des collections permanentes. Merci beaucoup Véronique Mathiussi d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Et tout de suite on écoute Le sens des affaires de Mustang. We'll be right back.
je sais faire un bœuf bourguignon. Mais qui peut me dire à quoi ça sert? Ça ne rapportera jamais un rond. Je n'ai pas le sens des affaires, et dans le monde où nous vivons, c'est pire qu'une tare, qu'un bec de lièvre, c'est pire que le cancer du poumon. Non, 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 non. Je n'ai pas le sens des affaires, je suis pas dans leur giron, sur leur carte routière. Chez moi, personne ne fait de pognon, ça fait des générations, il n'y a rien à faire. Dieu, quel malheur, quelle misère, je ne serai jamais champion. Entrepreneur, propriétaire, je vous tire mon chapeau et je vous tends l'oignon. Non, 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 non. C'est tarifé. Moi, on me culbute en toute gratuité.
Avec le sens des affaires et ses paroles très sensuelles. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 FM et en streaming, et vous écoutez Museum Side, votre émission de critique d'exposition. Et c'est l'heure de ta chronique, Agathe, et pourquoi pas le Pompidosaur.
Et effectivement, pourquoi ne pas aller voir ou ne pas fêter la collection permanente du Centre Georges Pompidou, qui s'étale sur deux niveaux, comme vous le savez certainement, et qui débute au cinquième étage, qui nous invite à aller voir les toits de Paris en même temps. C'est le directeur qui a décidé, Bernard Blisten, de nous faire rentrer directement par le cinquième étage.
Et ce qui est étonnant, c'est que du coup, on commence du haut vers le bas.
Absolument. On commence par un parcours thématique qui est plutôt dédié à l'histoire des avant-gardes européennes, mais pas que, pas uniquement. Effectivement, on va trouver des sections qui sont tournées vers l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, et quelques pièces aussi qui sont réservées, elles, aux activités de critique d'art de, par exemple, Guillaume Apollinaire, ou certaines grandes personnalités aussi du monde de l'art qui vont influencer le monde de l'art, telles que Michel Léris, Lévi-Strauss, qui changent au fur et à mesure de l'année, en fait. Et qui ne se limite pas, donc ces salles d'exposition, aux grands ismes du XXe siècle, tels qu'on les connaît bien, le fauvisme, surréalisme, futurisme.
Oui, ça essaie aussi de changer le regard, notamment. Exactement. Aussi de sortir un peu de cet européocentrisme.
Tout à fait, c'est tout à fait l'idée. Et c'est aussi dans le désir de redessiner un horizon un peu plus vaste et plus complexe, en fait, que seulement un art visuel, mais aussi raccroché avec les courants littéraires et puis évidemment ce qui s'en dit à l'époque. Et au quatrième étage, donc juste en dessous, sont déployées les collections d'œuvres ayant marqué plutôt la seconde moitié du XXe siècle, donc à partir des années 1970 jusqu'au début du XXIe siècle, à travers, pareil, un panorama de mouvements artistiques et de tendances historiques. Alors, ils sont représentés notamment le minimalisme que tu aimes tant, Florence, l'art tempo vera, Fluxus, le pop art. Et ce sont beaucoup d'œuvres aussi qui invitent vraiment le visiteur à faire une expérience en soi de visite, c'est-à-dire qu'il faut aller se perdre dans le jardin d'hiver de Jean Dubuffet, cette espèce de grotte qui a un véritable environnement autonome dans lequel on peut marcher, évoluer. On peut être aussi secoué devant un frisson, enfin avoir un frisson, véritable frisson devant les archives de Christian Boltanski par exemple, avec ces 1200 photos qui sont cachées dans des boîtes à biscuits qui donnent une atmosphère à la fois froide, rude et qui est un peu effrayante, ou aller écouter le silence
de Beuys.
Exactement, dans l'installation Plight, ou étouffée tout simplement dans cette salle complètement couverte de feutre. Donc autant de belles promesses qu'un après-midi d'été.
Oui, et puis surtout, on pense souvent aller au Centre Pompidou pour les expositions temporaires et on néglige un peu la collection permanente qui est en fait incroyable.
Qui est très belle.
Et ils font un effort de roulement, comme tu disais, régulier, qui fait qu'on peut toujours la redécouvrir à tout moment.
Oui, et ils l'ont créé de façon relativement agréable pour le visiteur aussi, en fait, qui peut faire des petits écarts ou rester dans l'axe central. Il y a vraiment un passage assez intéressant.
Merci Agathe. Notre-Dame de la Tuyauterie, usine à gaz, raffinerie de pétrole. Non, je ne parle pas d'un entrepôt, mais je parle bien du Centre Pompidou. On l'a affublé de tous les sobriquets possibles, jurant qu'il ne tiendrait pas dans le paysage. Et pourtant, 40 ans après, le Centre Pompidou est toujours là, plus pluridisciplinaire que jamais. On peut lui reprocher peut-être d'avoir parfois cédé à la tentation de faire des expositions plus racoleuses pour attirer les touristes. Mais il est resté prospecteur par le biais de ses nombreux événements, comme le nouveau festival. Il grouille toujours comme une petite ville, pensée comme un véritable lieu de vie, avec sa bibliothèque, ses différentes galeries, son atelier pour les enfants, son cinéma et ses salles de spectacle. On pourrait y passer ses journées, ou juste s'asseoir devant, sur son esplanade, conçue comme un espace de rencontre et de création avec tous les artistes de rue. Un parcours d'art contemporain relie plusieurs centres, déjà connus pour leur belle programmation, autour de son année d'inauguration 1977. Alors, Charlotte, pourquoi 77? Donc on sait que c'est la date d'inauguration du centre, mais là, dans ces trois lieux, qu'est-ce qui les lie autour de ce nombre 77?
Eh bien Florence, il y a trois raisons à cela. Soit ces œuvres datent de 1977, soit elles ont été acquises en 77 par le Centre Pompidou, ou bien ce sont des œuvres qui ont été réalisées par des artistes décédés en 1977, justement.
Alors toi, tu t'es rendue donc dans un des trois lieux, donc, qui est donc le château de Rantilly, à Bussy-Saint-Martin. Pourquoi tu as choisi ce lieu-là dans ce parcours? Et pour toi, donc, c'était la première fois que tu allais au château de Rantilly?
Alors oui, c'était la première fois et je n'y serais probablement pas allée sans cette exposition, car c'est un lieu finalement qu'on ne connaît pas tant que ça si...
Mais voilà. On connaît, il me semble que c'est un des lieux du FRAC Île-de-France.
Oui, tout à fait, il en fait partie.
Et on connaît plutôt le lieu sur Paris, le plateau, que,
voilà,
que
exactement.
Celui au Château de Rantilly,
est un peu moins
un
connu.
Peu plus loin.
Donc justement, c'est intéressant que le parcours 77 soit allé chercher de ce côté, à Rantilly. Donc cette exposition, en fait, elle s'appelle Chambre 202, enfin Hôtel du Pavot. Elle fait référence à l'œuvre de Dorothée Attaning, qui donne son nom à l'exposition, donc Chambre 202, Hôtel du Pavot, mais je vais y revenir un petit peu après.
Oui.
Donc cette exposition, en fait, elle est conçue comme un hôtel, et c'est pour ça qu'elle s'appelle ainsi. Sur deux niveaux, on circule à travers des cubes ou des boîtes où on trouve les œuvres d'art qui peuvent être des sculptures, des photographies ou bien des peintures. Et en fait, c'est une enfilade de chambres. Elles sont toutes numérotées comme dans un hôtel. Vous avez la chambre 202, 203, etc. On trouve des installations. Donc voilà, la plus emblématique, c'est celle de Dorothée Attaning. Donc c'est une œuvre assez impressionnante qui date de 1970 et qui, elle, a été acquise par le Centre Pompidou en 77.
En 77.
Voilà. C'est une scène assez surréaliste. On est face à une chambre d'hôtel. C'est une scène assez cauchemardesque et oppressante, car le visiteur se retrouve face à cette pièce avec un tapis, un papier peint un peu glauque, on pourrait dire, une lumière blafarde. Et on a le mélange de plusieurs créations de l'artiste, notamment Hôtel du Pavot, qui ce sont deux sculptures murales en lainage rose, et Time and Place. Donc là, il s'agit d'une cheminée garnie de créatures monstrueuses. Et en fait, cette œuvre ferait référence à une chanson qui aurait marqué Dorothea Tanning. Il me semble que c'était dans son enfance. Donc c'est une chanson qui a été écrite dans les années 20. Et qui fait écho à l'histoire de Kitty Kane, qui était la femme d'un gangster de Chicago, et qui s'est empoisonnée justement dans une chambre 202 dans un hôtel lambda.
D'accord.
Et voilà, en fait, ça ferait écho à cela. Et en parlant d'écho, justement, il y a beaucoup d'écho dans cette exposition.
Ouais.
Pourquoi faire compliqué ? Donc les œuvres se répondent,
de lien entre
il y a une symétrie,
œuvres,
voilà, ouais. Tout à fait. Mmh. Donc là, en face de Chambre 202, on a une peinture d'Eduardo Arroyo qui s'appelle...
Donc maître de la figuration narrative.
Absolument. Donc Heureux qui comme Ulysse, qui date de 77. Donc là, c'est un fait divers qui est représenté, une scène de crime. C'est une pièce où règne le chaos avec deux hommes étendus à terre, une femme qui se cache derrière un rideau, et deux hommes qui débarquent en chapeau à feutre et qui semblent découvrir la scène. Donc ça évoque vraiment un film policier. Et on peut faire un nouvel écho, donc ce tableau qui renverrait lui-même à des photographies de Mac Adams qui s'intitule The Witness, donc également de 1977, où là aussi on se retrouve face à une sorte de fait divers assez étrange qui peut introduire le trouble chez le spectateur. Donc voilà, donc on se trouve en présence de photographies, comme je l'ai dit, mais également, par exemple, l'œuvre Dolomite d'Ulrich Rückriem. Donc là, il s'agit de deux cubes de pierre, Dolomite, car c'est une pierre qui vient de la région italienne des Dolomites.
D'accord.
Et là, en fait, c'est un écho scénographique aux différentes boîtes qui représentent les chambres qu'on trouve dans l'exposition. Donc voilà, on a beaucoup de jeux...
Donc c'est agréable aussi, oui. J'imagine, pour le visiteur de faire les liens et de se balader entre
tout
les
à fait.
Heures.
Voilà, donc une exposition vraiment, vraiment intéressante et très riche.
Ça donne envie, bon.
Alors toi Marion, tu t'es donc rendue à la Ferme du Buisson, à Noisiel, donc centre d'art contemporain assez connu. Et là, dans le cadre du parcours 77, c'est un ensemble de films... Donc, que tu as pu regarder à la Ferme du Buisson. Donc, c'est Beaubourg en images, cette fois, lors de son inauguration, principalement, et à d'autres périodes.
Oui, donc cette Ferme du Buisson, qui est déjà un lieu magnifique en lui-même, un corps de ferme transformé en centre culturel très riche, où il y a cette exposition 77, quand Rossellini filmait Beaubourg. Alors, 77, c'est l'année de l'inauguration de Beaubourg. Et Rossellini était chargé de filmer cette première journée où le public découvrait pour la première fois l'art contemporain avec scepticisme. Et lui-même, Rossellini, découvrait les lieux. Il faut savoir aussi que c'est son dernier film. Et donc, on est plongé, nous, spectateurs, visiteurs de l'exposition, dans cette première journée, cette découverte d'un musée tout à fait nouveau, architecturalement, au niveau de sa muséographie. Et on voit donc des visiteurs qui arpentent les lieux, il y a des longs travelling. Rossellini a beaucoup travaillé avec des travelling dans les couloirs et les salles du musée. Il y a en fond sonore les réactions des visiteurs.
Et alors, il y a des réactions marrantes.
Alors, on n'entend pas tout le temps très bien. Moi, je suis restée assez longtemps devant et il y a des moments où il n'y a vraiment pas beaucoup de réactions. Mais ils commentent, ils s'étonnent, j'ai pas trop entendu moi de réaction négative, mais c'est plutôt des qu'est-ce qu'elle fait cette dame là au milieu du. Enfin, c'est assez rigolo quoi. Oui. On les voit, il y en a qui sont assis sur des chaises à méditer devant des grandes toiles, d'autres sont tous par terre un peu comme des enfants en colonie. Enfin, c'est assez rigolo. Et ça m'a fait un peu penser au temps moderne de Charlie Chaplin quand Charlot est au milieu d'un magasin dans la nuit. Enfin, ça fait un peu une ambiance comme ça nocturne, assez étrange. Et donc en plus de ce film de Rossellini, on a le film de Jacques Grandclaude qui est en train de filmer Rossellini, en train de filmer l'inauguration de Beaubourg.
Donc les coulisses, un peu
voilà,
du tournage aussi.
Sorte de making-of, et en même temps, on voit les méthodes de Rossellini, sa manière d'être, sa manière d'utiliser la caméra. Donc c'est très intéressant. Et puis, en plus de ces deux films, on en a un troisième de Marie Ovitti qui, actuellement, en 2017, interview Jacques Grandclaude notamment et d'autres personnes qui ont été, au cœur du projet filmique. Elle les interroge sur la construction du documentaire et leur relation avec Rossellini et leur méthode de travail, leur façon de travailler. Aussi comment était Rossellini et ensuite on a encore d'autres documents et d'autres œuvres qui enrichissent cette question du musée de la présentation d'œuvres d'art à des publics et aussi de la construction d'un musée au sein d'une ville et de ce que ça peut engendrer, notamment les destructions d'autres d'immeubles, destruction de lieux pour en construire d'autres.
Le notamment, travail de Gordon Mataclar, voilà, il est intéressant à mettre en parallèle avec celui de Rossellini.
Oui, parce qu'il nous montre la destruction d'immeubles avoisinant le centre Pompidou qui ont dû être détruits lors du réaménagement du quartier des Halles. Donc, ça met en parallèle, de façon un peu binaire, entre guillemets, la construction, la déconstruction, l'absence,
Et puis le choc que ça a été visuellement, parce que ce quartier des Halles a été complètement détruit pour construire Beaubourg à la place. Donc,
quelque chose de complètement un petit peu, une sorte d'ovni.
Oui, et puis à l'époque, les gens venaient voir les travaux avec curiosité, parce que finalement, c'était complètement improbable d'avoir ce bâtiment avec des tuyaux qui se construisaient sous les fenêtres de gens qui avaient toujours vu les Halles.
Oui, complètement novateur, oui. Et juste pour terminer, je voudrais transmettre l'information que ce film n'avait été diffusé à l'époque que deux fois. Donc c'est complètement inédit et courez-y pour aller voir cette expérience mémorielle et cinématographique.
Donc ça vaut le coup d'aller à l'expo, ne serait-ce que pour voir ces archives, ces traces.
Rossellini travaillait, les traces du passé.
Marie-Hélène, où nous emmènes-tu ?
Je vous emmène au Centre photographique d'Île-de-France à Pontaucombo pour vous parler du projet collaboratif 77 Experiment. Cette exposition s'articule autour de l'acte photographique, la nature réflexive de l'image et son processus de création. Elle interroge aussi le rapport de l'artiste à la caméra ou à l'appareil photo. Une seule contrainte, l'année 1977 qui est le point de départ de l'exposition. Les artistes qui ont participé à ce projet sont d'ailleurs toutes nées à l'époque où le Centre Pompidou a ouvert ses portes. Pour rendre hommage à la scène artistique expérimentale des années 70, on retrouve des pièces issues du Musée National d'Art Moderne. Dans la première salle de l'expo, des vidéos réalisées majoritairement par des femmes artistes sont projetées. Il y a Germaine Dulac, Sonia Andrade, Eleanor Antin, Gina Pan ou encore Orlan. Autant d'œuvres qui ont permis de développer le médium vidéo alors en plein développement. Dans les deux autres salles, les artistes invités Aurélie Petrel et Marina Gardonex ont travaillé autour d'un corpus d'images et de publications. Ceci représente deux aspects majeurs de la photo dans les années 70. À la fois à travers les archives du duo de photographes Harry Schunk et Janos Kender, des photographies essentielles et critiques sur l'art des années 60-70 qui se veut performatif et éphémère. On le voit à travers le land art ou l'art conceptuel par exemple. Donc ces photos deviennent de vraies traces des œuvres. Elles ont aussi travaillé à partir d'une sélection d'œuvres issues du projet Pier 18, où l'opérateur a un rôle majeur. En 1971, 27 artistes étaient invités à réaliser une performance ou à mettre en œuvre un concept sur un quai à l'abandon, le fameux Pier 18, à l'ouest de Manhattan. Ces œuvres étaient conçues pour être photographiées puis exposées. L'image devient alors un terrain d'expression où l'opérateur devient interprète en prenant la photo. Donc en performant ces différentes archives à travers leurs installations, les artistes invités permettent de mettre en abîme l'acte photographique. On retrouve notamment des éléments qui font référence au laboratoire photo qui a servi à réaliser les tirages de l'exposition. Il y a des planches et des tasseaux de bois sur lesquels étaient posées les images pendant le séchage par exemple. Sans oublier bien sûr toutes les références au Centre Pompidou et aux événements qu'il a accueillis dans les années 70. L'exposition n'est pas très longue mais très surprenante. N'hésitez pas à poser des questions aux médiateurs sur place et à prendre le temps de bien regarder les vidéos. Et autant en profiter puisque l'entrée est gratuite.
Vous l'avez donc compris, allez voir ces trois sites du parcours 77. Et dans le cadre de l'anniversaire de Beaubourg, il y a une autre très belle exposition dont je voulais parler, qui s'appelle « À pied d'œuvre » et qui est donc à la Monnaie de Paris et qui propose de montrer de très belles œuvres issues des collections du Centre Pompidou. Ce sont des sculptures contemporaines, seulement elles ne sont plus présentées sur un socle, mais sur le sol, en l'air, dans la nature. La tradition classique, entre guillemets, est bouleversée pour notre plus grand plaisir. On peut voir à l'entrée une vidéo montrant Robert Smithson en train de marcher le long de sa spirale Getty. Vous vous rappelez de cette fameuse spirale de cailloux donc, qui est immense, hein, puisque du ciel on la voit incroyable, mais donc il peut marcher dessus sur des kilomètres, qui était donc la première œuvre très connue du Land Art. On retrouve la patte de Michel Blasi qui expose sur le sol du papier toilette, voué à se décomposer, et une performance de Richard Serra, une vidéo dans laquelle il essaie d'attraper un objet d'une main en jouant avec la gravité. Sans fin, l'objet tombe et il essaie de l'attraper. On joue donc avec l'occupation des sols dans cette exposition, mais aussi avec le sacré. James Lee Byers pose sa sculpture sur le sol. Donc en fait, c'est des grosses boules de verre rouge, il y en a 1000, qu'il a posées comme ça dans un espèce de signe ésotérique et qui serait aussi un symbole de la transcendance de l'art. Donc c'est vraiment très très beau et c'est une grande pièce. Dans À pied d'œuvre, on passe aussi bien d'une œuvre d'Yves Klein à une sculpture hybride mi-homme, mi-animal de Giacometti. Une des salles est consacrée aux performances, l'occasion de revoir Orlan, prenant avec son corps les mesures d'une salle ou d'un trottoir. On en prend plein les narines et les pupilles en regardant les carrés colorés des pistes de Claudio Parmigiani. Et ensuite, en revenant sur ses pas, on ressort en marchant sur la vidéo de Pipi Lottieriste, un petit bijou qui montre le ciel et les toits. En fait, elle inverse notre point de vue en donnant à voir sous nos pieds ce que l'on devrait voir au-dessus de nos têtes. Venez donc voir à la Monnaie de Paris des œuvres qui vous feront voyager ou tourner la tête jusqu'au 9 juillet 2017. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique littéraire de Charlotte.
Vous, ce qui vous intéresse, c'est un monstre inquiétant.
Non, c'est pas aussi simple que ça.
Vous voulez le voir dans le tableau.
Pas forcément. Hein.
Aujourd'hui, je vais donc vous parler du catalogue de l'exposition Ciao Italia, un siècle d'immigration et de culture italienne en France. À mi-chemin entre un ouvrage d'histoire et un livre d'art, ce catalogue, dirigé par les spécialistes Stéphane Mourlan et Dominique Paini, prend parfois les allures d'un album photo. Il dresse le portrait de transalpins venus tenter leur chance en France entre 1860 et 1960. On y voit des épiciers, des agriculteurs, des maçons, mais aussi des artistes, comme le chanteur Yves Montand, entouré d'un journaliste et d'une divette, tout sourire face à l'objectif de Henri Moiroud, et figé dans un tel élan de vie qu'on croirait entendre l'air de Bella Ciao sortir de ses lèvres. Ces reproductions de célébrités ou d'anonymes donnent un aspect très vivant au catalogue, notamment dans le chapitre intitulé « Être d'ici et de là-bas », un chapitre signé Béatrice Piazzi. Nous y découvrons trois récits de vie, celle d'un maçon, d'un minier et d'un agriculteur, des franco-italiens, qui ont su s'intégrer sans rompre totalement avec leurs origines, comme la plupart des émigrés. Une intégration qui n'a pourtant pas toujours été facile. Le catalogue revient aussi sur des événements xénophobes comme les Vêpres marseillaises de 1881 et la tuerie d'Aigues Mortes en 1893. Tension inévitable face à l'ampleur du phénomène. À l'époque, la France est le troisième pays vers lequel se tournent les Italiens. Précisons que l'ouvrage se découpe en quatre parties : regard, lieu de la migration, empreinte culturelle et aujourd'hui. Il propose donc un ordre un peu différent du parcours de l'exposition. Ces auteurs nous rappellent qu'en France, la culture italienne a beaucoup inspiré musique, art, cuisine et politique, notamment en politique l'action des antifascistes italiens sur la politique française. Et n'oublions pas le cinéma, les admirateurs de Lino Ventura se réjouiront de le découvrir en train de jouer au football dans un costume de curé et de lire le long chapitre sur son arrivée à Paris, son expérience peu heureuse de l'école communale, et oui, ses camarades le traitaient de petit macaroni, et enfin son ascension par le catch et le cinéma.
Vous, ce qui vous intéresse, c'est un monstre inquiétant
Non, c'est pas aussi simple que ça.
Vous voulez le voir dans le tableau.
Pas forcément. Hein.
Alors pour finir l'émission, comme chaque mois, c'est l'heure de notre tour de table des coups de cœur. Et je commence par toi, Marion.
Alors moi, mon coup de cœur, c'est l'exposition « Sans chef-d'œuvre de l'art moderne et contemporain arabe » de la collection Bargel, qui est visible à l'Institut du monde arabe jusqu'au 2 juillet. Cette fondation Bargel est une fondation privée basée aux Émirats arabes unis et elle gère la collection personnelle d'un sultan prénommé Al-Qassemi. Ces trois petites salles qui réunissent une centaine d'œuvres aux genres vraiment très différents, de la peinture figurative et abstraite à des installations, en passant par de la photo. Ces œuvres interrogent des situations politiques brûlantes des pays dans lesquels évoluent les artistes, les sociétés dans lesquelles ils vivent, les émotions qu'ils éprouvent, mais aussi leur héritage culturel très riche. Et notamment, on y voit des recherches artistiques sur la lettre arabe. C'est une exposition dense et synthétique qui met à jour différents moyens d'expression de la création arabe de la seconde moitié du XXe siècle et plus récente. Et vous pourrez y croiser deux œuvres, notamment d'Etel Adnan, artiste dont on a parlé dans une émission en novembre.
Ah, Etel Adnan. Bon, ben, nous irons. Marie-Hélène.
Mon coup de cœur ce mois-ci, c'est l'exposition de Peter Campus, Vidéo Ergo Sum, toujours au jeu de paume. Le spectateur a un vrai rôle à jouer dans l'œuvre où il prête son image et devient acteur. À travers plusieurs dispositifs où sont utilisés caméras, miroirs, rétroprojecteurs et écrans de télévision, l'image du spectateur se dédouble et se confond en noir et blanc. Le corps devient presque fantomatique dans l'obscurité de la salle. C'est une véritable expérience où se mélange à la fois technique et art, très amusante et aussi un peu perturbante que je conseille absolument. Et c'est à voir jusqu'au 28 mai.
Charlotte, quel est ton coup de cœur ?
Alors moi, je vous recommande d'aller voir Pissarro à Erani, La nature retrouvée, au musée du Luxembourg du 16 mars au 9 juillet 2017. Donc vous y verrez une centaine de tableaux, dessins et gravures qui proviennent de collections du monde entier. Donc cette exposition se porte sur la période de 1884 à 1903, période lors de laquelle Pissarro est allé s'installer dans le village d'Erani sur Ette.
Très bien. Agathe ?
Alors moi, je vous conseille d'aller voir une exposition qui s'appelle Afrique Capitale, qui se tient en fait dans la grande halle de la Villette et qui a été organisée dans le cadre de la deuxième édition du festival pluridisciplinaire 100% Afrique. Donc vous pouvez aller la voir jusqu'au 28 mai. C'est une exposition qui a une scénographie assez spectaculaire et qui montre une soixantaine d'artistes. Donc ça prend beaucoup de temps. Enfin, ça prend beaucoup plus de temps qu'on imaginerait. Et il faut lui en consacrer parce que les œuvres sont toutes très singulières, évidemment, vu que ce sont des artistes. Donc c'est toute la création africaine contemporaine. Donc
contemporaine,
c'est assez vaste,
ouais.
Ça donne une
belle visibilité à ces artistes.
Oui, tout à fait. Et je pense qu'on aurait même aimé en voir plein de petits, encore plus de petits morceaux sortis de cette exposition, tellement les artistes sont intéressants, avec donc un espace qui leur aurait été dédié plus, parce qu'ils sont une soixantaine à exposer dans cette grande halle. Et ils sont des médiums aussi, évidemment, très variés, de l'installation à la vidéo, à la sculpture, à la peinture. Et toutes les œuvres sont aussi, beaucoup d'œuvres sont très poétiques, donc c'est une très belle exposition.
C'est l'année de l'Afrique parce qu'il me semble qu'il y a une exposition qui commence aussi à la Fondation Louis Vuitton.
Quartier, oui, sur, Louis Vuitton, tout à fait.
Sur l'art contemporain africain.
Oui, c'est vrai.
Donc peut-être à compléter. Et bien moi, mon coup de cœur, c'est l'exposition de Jacques Truffémus, pour finir, donc L'intimité révélée, qui est présentée jusqu'au 9 juillet dans la propriété de Gustave Caillebotte à Hyères, qui est en travaux pour l'instant, mais qui va rouvrir prochainement, je crois en juin. À 95 ans, le maître lyonnais devient de plus en plus novateur. On revient dans cette petite rétrospective sur toute sa carrière. Les tableaux montrant son atelier, puis les bords de Saône lyonnais. Sa période sévenoise quand il rencontre sa femme aimée et part s'installer dans sa région. Puis on se délègue de ses nombreuses natures mortes, qu'il appelle vie silencieuse, pour finir par ses derniers tableaux. L'atelier apparaît derrière une fenêtre, des fruits sont posés sur une nappe. C'est esquissé, c'est tellement vaporeux qu'on dirait du pastel. À noter, c'est la première fois qu'on voit des portraits de sa femme aimée, avec qui il a passé toute sa vie et qui est décédée il y a quelques années. Des peintures douces, parfois plus classiques. Allez vite voir les œuvres de ce peintre, encore parfois curieusement peu reconnu du grand public. Et Museumside, sur ce Museumside, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Véronique Mathussi et à vous les filles, Agathe, Marie-Hélène, Charlotte et Marion, ainsi qu'à notre réalisateur Louis-Julien. Merci de nous avoir suivis sur le 93.9 FM et sur Internet.
Si vous voulez retrouver toutes les infos sur les différentes expos dont nous avons parlé, n'hésitez pas à aller sur notre page Museum Side, sur le site de Radio Campus Paris et suivez-nous sur Facebook et sur Twitter. On vous retrouve le dimanche 28 mai à 20h. On recevra Emilia Filippo, commissaire de l'exposition Olga Picasso au musée Picasso. Et en deuxième partie, nous parlerons de l'exposition Les paysages mystiques de Monet à Kandinsky au musée d'Orsay. Restez avec nous.